Salut, c'est Steven Jambeau. Vous écoutez l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous écoutez notre podcast, on va parler de complotisme.
Si la Terre est un globe, il y a des gens qui se retrouvent la tête en bas. Comment des gens peuvent-ils vivre la tête en bas?
Parce qu'il y a la gravité.
Ouais, ça c'est l'histoire qu'on nous raconte.
Turn off your mind, relax, and float downstream.
Depuis des années, il alerte sur l'ampleur et la gravité du complotisme. Rudi Reichstadt est le directeur de ConspiracyWatch.info. En France, il est devenu la référence en matière d'analyse critique du conspirationnisme. En 2019, Rudi Reichstadt publiait « L'opium des imbéciles », un essai sur la question complotiste aux éditions Grasset. Et il vient juste de lancer, avec la chaîne de service public France Info, un podcast titré « Complorama ». J'ai choisi de tendre mon micro à Rudi Reichstadt pour parler des dynamiques actuelles du complotisme alors que Donald Trump vient de quitter la Maison Blanche et que la pandémie de Covid-19 semble ne plus en finir. Mais aussi que les plateformes internet et certains médias sont plus actifs que passifs dans la diffusion de théories du complot. Bonjour Rudi Reichstadt.
Bonjour.
Vous estimez que le complotisme a franchi un palier en 2020. Expliquez-moi pourquoi.
Écoutez, d'abord, le complotisme, c'est un phénomène très ancien. Il y a des théories du complot depuis qu'il y a des sociétés humaines, probablement, depuis qu'il y a des vrais complots. Il y a aussi des accusations de complots imaginaires ou calomnieuses. Donc, c'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la manière dont Internet et la configuration techno-médiatique qui est la nôtre et qui repose, on va dire, sur le triptyque haut débit, smartphone, réseaux sociaux, a complètement redistribué les cartes du point de vue de l'influence sociale que ces idées-là, que ces représentations complotistes-là pouvaient avoir. Voilà. Et il s'est passé effectivement quelque chose en 2020, et je crois que c'est de l'ordre d'une accélération de l'histoire, c'est-à-dire une expansion très rapide de cet imaginaire dans des fractions de la population qui jusque-là y était relativement imperméable. Évidemment que la crise sanitaire et que la pandémie de Covid-19 a joué un rôle majeur dans cette histoire, mais l'une des illustrations de ce phénomène, c'est la migration, par exemple, d'un phénomène complotiste comme QAnon des États-Unis à l'Europe. QAnon, c'est un phénomène complotiste qui est apparu radical, hein, qui est apparu fin 2017, qui est resté un phénomène américain pendant près de 3 ans. Et qui a vraiment franchi l'Atlantique à la faveur de cette crise sanitaire en 2020.
Alors là, il faut que je resitue le mouvement QAnon, ce que c'est. C'est un mouvement qui est apparu en octobre 2017. L'idée générale, c'est qu'il y aurait un complot international d'une élite pédosataniste contre l'administration Trump et que Trump, associé à un mystérieux personnage qui s'appelle Q et qui publie des messages sur un obscur forum en ligne, serait en train de livrer une bataille épique contre un état profond, un deep state totalement fantasmé. Voilà, j'ai resitué un petit peu la chose. Vous parlez d'accélération en 2020, on pourrait presque dire que 2020 est allé jusqu'au 6 janvier 2021 avec les événements au Capitole où des groupuscules, une nébuleuse de mouvements bien sont entrés dans le Capitole, cœur de la démocratie américaine.
Oui, mais ce qui a rendu le Capitole possible, enfin ce qui s'est passé au Capitole, l'envahissement du Capitole le 6 janvier 2021, c'est aussi le fait qu'on a une opinion, une fraction de la société américaine, de l'électorat républicain en particulier, qui a été chauffé à blanc par Donald Trump, qui majoritairement croit encore aujourd'hui qu'on lui a menti sur l'issue de l'élection, que les fraudes ont été massives, que Biden a été mal élu, que c'est donc un président illégitime. Donc il ne faut pas perdre de vue que ce mensonge complotiste sur l'élection elle-même, il a fonctionné. Et on ne peut pas dissocier ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole de ce grand mensonge complotiste au nom duquel, effectivement, une minorité de personnes particulièrement radicalisées, extrémistes, sont allées faire de la casse, et pas seulement de la casse. Ça s'est traduit par 5 morts, quand même. 4 parmi les manifestants, 1 dans les forces de police du Capitole. C'est une tragédie quand même qui s'est produite, et pas seulement une tragédie, presque un tournant dans l'histoire de la démocratie américaine. Ça ne s'était jamais produit.
Et pourtant, le 20 janvier, Joe Biden a bien été investi président des États-Unis. Et là, eh bien, le mouvement QAnon, les adeptes du mouvement QAnon, ont pensé jusqu'à la dernière minute eh bien, que l'armée allait intervenir pour que Trump reste au pouvoir.
Absolument. C'est-à-dire, jusqu'à la dernière minute et même au-delà, puisqu'il a fallu pour dessiller les yeux de certains, attendre encore le lendemain. Et aujourd'hui encore, vous avez toute une partie de ces personnes qui pensent que les choses ne sont pas encore complètement jouées, qu'il peut y avoir encore un renversement dernière minute. Bon. Donc, si vous voulez, on a là une fuite hors du réel de la part de gens qui ont été confrontés à ce qu'on appelle en sciences sociales une dissonance cognitive. C'est-à-dire que ils ont assisté en direct à l'échec d'une prophétie, l'échec de leur prophétie. Ils étaient persuadés qu'au dernier moment, les militaires allaient intervenir, que Trump allait revenir dans le jeu, décréter la loi martiale et enfermer ses opposants. C'est-à-dire que le grand fantasme des QAnon, c'était quand même un coup d'État militaire, il ne faut pas l'oublier.
Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs cette semaine, on a connu un coup d'État militaire dans le monde, c'est en Birmanie, et que là, il y a des adeptes du mouvement QAnon qui ont réagi et qui ont souhaité qu'il advienne la même chose aux États-Unis, qu'il est advenu à Aung San Suu Kyi, qui a été débarqué par un coup d'État militaire lundi, je crois que c'était en Birmanie.
Oui, ce fantasme du coup d'État, en fait, il est consubstantiel à ce complotisme radical et à QAnon en particulier. Il faut se souvenir que le premier message de Q, ce personnage fictif en fait, c'est une vraie manipulation.
Il y aurait peut-être même deux personnes selon un cabinet suisse.
C'est ça, il y aurait sans doute deux personnes, peut-être un père et son fils en l'occurrence, qui sont les propriétaires du forum 8chan qui est devenu 8kun. Bon, de toute façon, on ne peut pas le savoir avec certitude, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le premier message de Q annonçait l'arrestation imminente d'Hillary Clinton et que les messages sibyllins postés par Q, soit sous forme de questions, soit sous forme de postes un peu cryptiques comme cela, eh bien, ils ont annoncé régulièrement l'arrestation, l'arrestation en janvier annoncée du pape pour 80 chefs d'accusation, compromission avec des réseaux pédophiles, etc. Les partisans de QAnon ont expliqué courant novembre, décembre, que lorsque Joe Biden s'était blessé à la cheville, qui portait une attelle, il s'agissait en réalité de dissimuler un bracelet électronique. Et que, en fait, il avait été arrêté, mais que, voilà. Donc, on a sous nos yeux la constitution, en fait, d'une réalité parallèle, à laquelle certains, et ils sont nombreux, croient dur comme fer, et une réalité parallèle qui se substitue à notre réalité commune.
Alors justement, parlons des profils que le complotisme attire. Y a-t-il une carte d'identité, des catégories socioprofessionnelles, des âges qui sont plus sensibles au complotisme ?
Il y a des grandes variables prédictives en matière d'adhésion au complotisme. Le diplôme joue, le niveau de vie, l'âge également, l'affiliation, la sympathie politique. Plus on est extrémiste, plus on est perméable à ces idées complotistes. Donc voilà, ça c'est pas moi qui le dis, ce sont plusieurs études qu'on a pu réaliser avec l'IFOP et qui sont corroborées d'ailleurs par d'autres études internationales.
Non mais pour parler franchement, est-ce que le complotisme est une maladie qui toucherait davantage les classes populaires, les classes très pauvres que les milieux aisés et éduqués, ou alors il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de point si commun que ça entre tous ces gens ?
Non, c'est plus complexe que ça, parce que vous avez des théories du complot qui vont avoir davantage de succès dans des couches plus aisées de la population, par exemple, et dans des populations plus diplômées. Pourquoi ? Parce qu'elles y seront plus exposées. En particulier, elle sera le reflet d'un biais d'exposition très fort. A contrario, il y a des thèses complotistes qui ont une décroissance linéaire lorsque vous augmentez en diplôme ou en niveau de vie. D'accord ? Donc c'est très corrélé, si vous voulez. C'est ce qu'on observe. C'est pas quelque chose qui se distribue de manière égale dans la population, ce serait faux de le dire. Mais évidemment que l'instruction, la culture, le fait de pas être pris à la gorge socialement, de pas être dominé socialement, économiquement, vous arme mieux contre le complotisme, contre la séduction du complotisme. Et inversement, lorsque, là aussi, il y a un biais psychologique très fort, lorsque vous êtes en situation d'échec, lorsque vous avez le sentiment, par exemple, subjectif, de ne pas avoir réussi votre vie, eh bien, vous êtes plus facilement adepte de théorie du complot.
Donc lorsqu'on est également dans des périodes de crise comme celle que nous vivons actuellement, qui est une crise au carré, à la fois sanitaire, économique, sociale, j'ai un peu l'impression, en fait, moi ça m'a fait penser à la citation de Paul Léoto qui dit « Les temps sont durs, la vie n'est pas drôle, la bêtise règne, le bon Dieu redevient à la mode ». Et il en serait presque de même pour le complotisme.
Oui, c'est tout à fait juste. Je crois que le complotisme nous permet de nous rassurer. Parce qu'il nous offre un cadre explicatif qui vaut ce qu'il vaut, il vaut pas grand-chose, mais un cadre tout de même à une situation d'incertitude qui est très inconfortable. Si vous voulez, circonscrire la menace, l'identifier, se dire finalement, il suffirait de mettre Bill Gates en prison et de poursuivre Big Pharma pour régler ce problème de pandémie, eh bien c'est plus rassurant. On a l'impression de maîtriser une situation que de se dire qu'on ne sait pas d'où vient ce virus, quand est-ce qu'on en aura fini avec lui, si un vaccin sera disponible ou pas. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois encore, on ne savait pas si on pourrait avoir un vaccin rapidement, ou même un jour. Donc c'est d'une certaine manière plus rassurant de se dire « bon voilà, j'ai identifié la menace, je sais où elle est ». Et puis, je crois que, là aussi, on l'a observé, si vous voulez, il n'y a pas que le complotisme, il y a aussi le fait de se dire, finalement, c'est la nature qui se venge, ou alors c'est une vengeance divine, une punition divine, un châtiment divin. Ça, on l'a beaucoup entendu aussi, hein, dans les premiers mois de la pandémie. Donc, c'est pas complotiste, à proprement parler, mais c'est une manière de reprendre la maîtrise sur le cours des événements, de les interpréter, de leur donner un sens. Donc ça, ça joue, à mon avis, énormément. Et puis, il y a autre chose, qui est la sidération produite par la situation un peu dystopique dans laquelle on a tous basculé en quelques jours, en quelques semaines. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose de très inattendu qui nous est arrivé. Et effectivement, dans ce type de situation critique, eh bien, on sait que les théories du complot, et c'est vrai à travers l'histoire, se répandent beaucoup plus facilement. C'est une vieille histoire que l'histoire des théories du complot. Je rappelle que lors de toutes les grandes pandémies, il y a eu des accusations complotistes. Vous remontez au Moyen-Âge avec la peste noire, on accusait les juifs d'empoisonner les puits. Les grandes épidémies de choléra au XIXe siècle, c'était pour beaucoup un complot aristocratique, pour tuer le peuple, etc. Sur le sida, il y a eu énormément de théories du complot également. Donc c'est pas nouveau, c'était évident qu'il fallait s'y attendre, mais ça a pris des proportions là cette année, enfin en 2020 en tout cas, tout à fait préoccupantes.
Au passage, il y a toujours un socle commun au conspirationnisme et à tout ce que vous venez de citer d'ailleurs, c'est l'idée d'une conspiration américano-sioniste ou parfois juste américaine ou parfois juste sioniste. Et la Big Tech aussi maintenant et la Big Pharma, donc les grands groupes pharmaceutiques qui sont mêlés à ça.
Oui, il y a eu tout ça et encore d'autres choses. Vraiment, les figures qui se sont détachées, c'est d'abord celle de Bill Gates, très massivement. Bill Gates, qui est le fondateur de Microsoft, et avec sa femme qui gère la fondation Bill et Melinda Gates, qui font beaucoup pour la lutte contre l'extrême pauvreté, qui font beaucoup pour la vaccination en particulier, qui, dans une conférence publique TED, je crois, en 2015, annonçait que l'un des grands défis du 21e siècle, ce serait de répondre à ce type de menace virale. Alors évidemment, pour certains, ces propos-là ont été interprétés non pas comme de la chose qui relève de la prévision, mais comme l'annonce et un aveu de culpabilité. Voilà, on s'est dit, ben si il avait vu si juste, c'est pas qu'il est visionnaire, c'est que en fait il est complice du complot. Et je crois qu'il faut chercher cette répulsion qu'inspire pour certains une personne comme Bill Gates dans la peur, d'une certaine manière, qu'une personne qui concentre entre ses mains autant de richesses. Parce que c'est vrai que c'est une question, par ailleurs, et une question légitime. Notre système produit cela, des gens qui, entre leurs mains, concentrent des richesses économiques équivalentes au PIB de pays en voie de développement, mais en tout cas de pays entiers. On peut comprendre que ça suscite une forme de peur, de défiance, là où ça prend une dimension d'une part délirante et complètement injuste. C'est que Bill Gates, c'est pas le seul milliardaire dans le monde, il y en a plein d'autres dont on connaît pas les noms, mais avec quelques autres, il a décidé de mettre l'essentiel de sa fortune au service de quoi ? Du bien commun. C'est-à-dire qu'il aurait pu décider de rester au bord de sa piscine à siroter des cocktails pour le reste de sa vie. Non, il a décidé de mettre sa fortune au service de la santé publique, de la lutte contre la pauvreté, et il est remercier d'une certaine manière, c'est vraiment l'ironie de l'histoire, par des gens qui le font passer pour une sorte de personnage criminel, diabolique, etc. Donc voilà, c'est aussi ce que peut produire le complotisme.
le Wi-Fi ou Dieu, des points communs. Le Wi-Fi ou Dieu, des points communs. Ils sont tous les deux sans fil, invisibles, non comestibles. Ils ont plusieurs apparences pour désigner une même chose. Plusieurs noms, SFR, Bouygues, Free, Allah, Bouddha, Shiva, Jésus est là. Et révèlent un certain monopole, une certaine toute-puissance. Le Wi-Fi et Dieu, des points communs. Le Wi-Fi et Dieu, des lieux communs. On peut les trouver dans les lieux publics, par exemple les jardins, les bibliothèques, les gares. Il y a aussi un vocabulaire commun. Par exemple, les sites, les icônes, les déclics, les apparitions ainsi que leurs représentations en couleur. Une présence par les ondes, la recherche de l'accès, un chemin. On y croit, on les pratique tous les jours. Le Wi-Fi et Dieu, des points communs. Je peux m'adresser à l'un ou à l'autre, effectuer des recherches. Des fois, certaines informations nous échappent. Il faut donc garder espoir. On peut toujours invoquer la connexion, l'accès à la connaissance. La connexion revient toujours. Le Wi-Fi ou Dieu. On y retrouve des âmes et des réseaux sociaux, des paroles, des cantiques, des musiques. On peut aussi s'y rencontrer. Le Wi-Fi ou Dieu, des points communs.
Vous écoutez toujours l'Atelier des médias, je suis avec Rudy Reichstadt, le directeur de ConspiracyWatch.info, l'observatoire du conspirationnisme et des théories du complot. J'aimerais maintenant qu'on parle de l'économie du complotisme, puisqu'il y a des personnes qui s'enrichissent du complotisme, c'est un fait. Et d'ailleurs, vous avez, avec Conspiracy Watch, lancé un projet depuis un an, deux ans maintenant, qui est porté par Tristan Mendès France. On en parlait dans l'Atelier des médias en octobre dernier. Ça s'appelle Stop Hate Money. Expliquez-nous la démarche.
La démarche, c'est tout simplement de partir du fait que les gens qui répondent des contenus haineux et ou des contenus complotistes, mais c'est souvent très lié à la haine en ligne, le font en trouvant des solutions de financement sur Internet, notamment, et des facilités de financement tout à fait problématiques. C'est par exemple le film Hold Up qui accuse l'Institut Pasteur d'avoir fabriqué le virus de la Covid-19, qui lève 300 000 euros, plus de 300 000 euros sur des plateformes de crowdfunding. C'est Dieudonné qui se lance dans la vente d'assurance ou de crypto-monnaies ou de masques. C'est tout un tas de sites toxiques qui font de la publicité ou bien qui hébergent sur leur plateforme des publicités programmatiques avec des annonceurs tout à fait classiques, peut-être Carrefour, La Maïf, etc., qui ont des annonces sur ces sites-là. Et donc, ils se traduisent en revenus, en recettes publicitaires pour ces sites. Donc, on a décidé de s'inspirer d'une démarche qui est américaine au départ, qui est celle de Sleeping Giants, et qui consistait à sensibiliser les annonceurs au fait qu'ils participaient de cette économie de la haine en ligne, du complotisme. Et donc, on a lancé ce projet. Alors, à vocation largement expérimentale, avec un tout petit financement. C'est effectivement piloté par Tristan Mendès France pour l'Observatoire du conspirationnisme. Et ça a été, en tout cas, et c'est toujours très instructif, parce qu'on voit qu'il y a toute une économie, tout un business, en fait, du complotisme. C'est la monétisation de chaînes YouTube, c'est la vente de prestations de formation par tout un tas de naturopathes, complotistes, qui vous propose la vente d'extracteurs de jus, par exemple, ou de formation en bien-être, ou de coaching, etc., qui sont vendus très très cher, hein, c'est des centaines d'euros. Hein. Donc voilà, on se dit qu'il y a là un champ à creuser, en tout cas, et une manière de sensibiliser le public au fait qu'il y a des motivations, évidemment, et je crois qu'elles sont principales d'ailleurs, enfin en tout cas elles sont primordiales, ces motivations, c'est les motivations politiques, idéologiques. Mais les motivations économiques et financières sont bien présentes également. Juste, il faut songer que quelqu'un comme Alex Jones aux États-Unis, qui est vraiment le pape du complotisme américain, fidèle supporter de Donald Trump, est quelqu'un qui s'est taillé un petit empire digital du conspirationnisme, dont le chiffre d'affaires se compte en millions, voire en dizaines de millions de dollars par an. Faut garder ça à l'esprit.
C'est lui qui porte Infowars. Lorsque l'on a parlé avec Tristan Mendes France de Stop Hate Money, j'ai reçu des messages de personnes qui me disaient « Mais vous donnez une tribune à ces gens qui, en fait, viennent lutter contre notre liberté d'expression et notre droit de penser » et qui disaient « Mais eux aussi, peut-être, s'enrichissent, etc. » Que répondez-vous à ces critiques-là ?
D'abord, la liberté d'expression, me semble que c'est de pouvoir accepter les critiques aussi, et que ceux qui sont pas d'accord avec nous puissent s'exprimer. Donc nous, on conteste pas la liberté d'expression des complotistes. Hein. On pense qu'ils s'expriment de fait, que personne remet ça en cause. En revanche, lorsqu'ils s'expriment dans un média, eh bien, le média concerné doit être tenu pour responsable de ce qu'il permet de diffuser, parce que certaines théories du complot peuvent avoir des conséquences dans la vie réelle, on l'a vu, on parlait du Capitole tout à l'heure, mais également peuvent s'avérer dangereuses. Je veux dire, il y a des idées dangereuses qui vraiment se matérialisent ensuite par des passages à l'acte violents. Donc, c'est un procès un peu étrange, alors, d'autant que alors pour le coup, nous, on fait pas beaucoup d'argent avec ça. C'est-à-dire que Conspiracy Watch est un site qui a été créé en 2007, qui pendant 10 ans a été animé totalement bénévolement. Mais totalement. C'est-à-dire qu'en réalité, ça nous coûtait de l'argent, en fait. Et on est un peu venu nous chercher, parce qu'on estimait qu'on faisait un travail intéressant et pionnier sur le sujet, et assez inédit, à la fois sans précédent et sans équivalent. Et c'est là qu'on a commencé à passer à une version professionnelle de notre travail et qu'on a eu un peu de financement pour monter un vrai service de presse en ligne dédié à ces questions-là, mais qui reste très modeste dans ses moyens, dans ses ambitions aussi. Mais dire qu'on fait beaucoup d'argent avec ça, je veux dire, il n'y a pas de boutique en ligne sur Conspiracy Watch, on ne vend rien, il n'y a pas de solution d'abonnement, enfin, on est complètement gratuit. Je ne sais pas quoi vous répondre.
Dans une interview que vous avez donnée récemment, vous avez parlé du rôle des médias face aux théories du complot, et vous racontiez un moment un petit peu surréaliste que vous avez vécu sur un plateau de télévision. Je vous cite, « Une partie de mes contradicteurs, qui étaient des éditorialistes, ont péché ce soir-là par nombrilisme, comme incapables de penser qu'ils ne sont pas forcément, eux, leur corporation, et nul autre à l'origine du problème. » Trouvez-vous qu'il y a des médias qui font mal leur boulot face aux théories du complot, voire qui aggravent le souci ?
Ben, si vous voulez, il y a un rapport très ambivalent. D'abord, il faut parler du rapport très ambivalent des complotistes aux médias classiques. C'est un rapport fait de fascination et de répulsion. Répulsion parce que ils dénoncent ces médias comme étant avec des noms d'oiseaux, d'ailleurs, que je ne veux pas répéter ici, mais extrêmement violents. Mais en gros, en expliquant que les médias dominants mainstream sont des médias collabos, corrompus, nous mentent, etc., la Lugan Presse, disaient les nazis quand même, hein, la presse qui ment, la presse mensongère. Bon. Et en même temps, fascination, parce que dès que cette presse mainstream va sortir des informations qui pourront être instrumentalisées ou qui donneront l'impression d'aller dans le sens des complotistes, alors là, ce seront les premiers, évidemment, à les relayer avidement, à dire « Regardez, on vous le dit depuis tant de temps, regardez, ça va dans le sens qu'on dit, c'est bien la preuve que... » Et puis, de l'autre côté, il y a un rapport tout aussi ambivalent de cette presse professionnelle classique, conventionnelle, à l'égard des complotistes. C'est un rapport à la fois de rivalité, sans compromission parfois, c'est-à-dire que cette presse va effectivement faire son travail en les appelant par leur nom, les complotistes, en faisant un travail de fact-checking, de debunking, en luttant contre tout cela, en nous accordant à nous, Conspiracy Watch, parfois des tribunes, des espaces pour nous exprimer, pour alerter sur ce danger-là. Et parfois, cette presse-là va être aussi dans un rapport non pas de rivalité, mais de concurrence. De concurrence avec ces médias alternatifs complotistes, à la fois en essayant d'aller sur leur terrain, d'imiter leur style, qui est celui de la révélation, qui est celui du dévoilement, du cachet, etc. Et je crois que là, c'est un jeu dangereux.
En gros, quand le débat public, donc le débat médiatique, finit par s'aligner sur les obsessions des complotistes, c'est là que ça devient dangereux. Et vous avez l'impression que c'est ce qui est en train de se passer ?
J'ai pas l'impression que... J'ai l'impression que ça s'est toujours passé, en réalité. C'est-à-dire que il y a à la fois, parce que il y a le fantasme de beaucoup de journalistes qui est de soulever un lièvre qui est le Watergate, ou, vous voyez, de dire, regardez, nous, on n'a aucune compromission avec les puissants, etc., donc d'être plus suspicieux qu'il ne devrait l'être. J'ai un journaliste une fois qui m'a dit, mais mon métier, c'est d'être paranoïaque. À quoi j'ai répondu, on était en conférence publique, non, votre métier, c'est de rapporter les faits, c'est d'être scrupuleux sur les faits, c'est pas dire aux gens ce qu'ils doivent penser, certes, et c'est pas non plus d'être paranoïaque. Je comprends que dans votre démarche, il faut évidemment tout questionner, mais c'est pas forcément d'être paranoïaque. La paranoïa, c'est quand même un trouble psychique, hein, il faut pas l'oublier. Bon, voilà. Mais je crois qu'il y a deux phénomènes qui coexistent. Il y a cette volonté de dire, regardez, on fait notre travail de journaliste et chaque affaire, c'est Watergate. Et de l'autre, je crois qu'aujourd'hui, les journalistes vivent beaucoup sous la pression des réseaux sociaux et d'une pensée unique sur les réseaux sociaux qui est largement suspicieuse, sinon complotiste. Et donc, pour montrer patte blanche, ils sont portés, là aussi j'ai des conversations avec des amis et des collègues journalistes qui me le confirment, ils sont portés quand même à concéder beaucoup à cet imaginaire complotiste. Et ça, c'est un problème. Parce qu'alors, ils sont plus tout à fait dans l'éthique qui doit être la leur, c'est-à-dire, encore une fois, de rapporter les faits, pas dire à son lectorat ce qu'il a envie d'entendre, mais de lui dire, de lui rapporter ce qui se passe dans la réalité. Voilà.
Il y a une caisse de résonance dont on a parlé plusieurs fois depuis le début de cet entretien. C'est une caisse de résonance qui s'appelle Internet. Vous avez même parlé du triptyque haut débit réseaux sociaux smartphone. Et vous avez fait un rapprochement que j'ai trouvé intéressant avec la réforme protestante.
Oui, si vous voulez, ce que nous avons dans la tête, ce qu'il y a dans nos musées, l'art, la politique, l'idéologie, ce qu'en termes marxistes on appelle les fonctions sociales supérieures, elles sont largement déterminées par leurs conditions matérielles, techniques, de transmission, de diffusion dans le temps, dans l'espace. L'exemple canonique de cette situation, c'est évidemment ce que doit la réforme protestante, enfin ce que doivent Calvin et Luther, si vous voulez, à Gutenberg, ce que la réforme doit à l'imprimerie. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas d'imprimerie, eh bien, on n'imprime pas la Bible. Si on n'imprime pas la Bible, on ne la traduit pas en langue vulgaire, donc on ne la lit pas. Si on ne la lit pas, on ne la commente pas, on ne réfléchit pas dessus, etc. Donc on reste tributaire de l'Église catholique, etc. Donc, évidemment, ces innovations techniques à travers l'histoire, elles ont conduit à des formes d'idéologie, d'idées aussi, nouvelles. Et je crois que c'est ce que nous vivons avec le complotisme. Alors, le complotisme, je le disais tout à l'heure, n'est pas nouveau, mais il y a un certain nombre de théories du complot qui, avec ces conditions matérielles de diffusion, ont eu une chance historique. Prenez l'exemple de la Terre plate, stade suprême du complotisme. D'accord, vous ne devenez pas platiste du jour au lendemain, vous devenez platiste au terme d'une évolution qui vous a fait passer auparavant par toutes les autres théories du complot. Vous dites finalement, si on me ment sur tout ça, on doit mentir aussi là-dessus. Bon. Le platisme, ça existe depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. On sait que la Terre est ronde, en gros, très clairement depuis la Renaissance. C'est pas remis en cause depuis cette période-là. Et vous avez aux États-Unis une Flat Earth Society, la Société de la Terre plate, qui a été fondée plutôt par des fondamentalistes protestants pour des raisons religieuses, mais qui n'ont jamais eu beaucoup d'influence. Et qui n'en ont, jusqu'à aujourd'hui, pas beaucoup. Mais il s'est passé depuis une dizaine d'années, sur Internet, quelque chose de nouveau. Ces idées platistes, l'idée que la Terre est plate, est revenue en force, non pas grâce à un activisme particulier de la Flat Earth Society, mais grâce à YouTube.
Et grâce aux algorithmes de YouTube.
Exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser ce qui s'est passé avec le platisme ces 10 dernières années si on isole le facteur YouTube. Parce que, évidemment, la possibilité de poster des vidéos en ligne, donner à chacun d'entre nous, de le faire très facilement avec très peu d'investissements, très peu de moyens en réalité, juste une connexion Internet et un ordinateur. La possibilité de diffuser des vidéos de bonne qualité à un public potentiellement planétaire. La possibilité de constituer des communautés de croyants grâce aux réseaux sociaux. La possibilité d'être soi-même un journaliste, un reporter en puissance avec un smartphone. Avec un smartphone, vous pouvez publier immédiatement, instantanément, à tout moment, de l'écrit, du son, du texte, de l'image, etc. Et bien cela a donné notamment aux théories du complot, à ces contenus complotistes, une chance absolument historique de se développer, parce que ça a démultiplié leurs sources de diffusion, si vous voulez, de production, et ça a permis de mettre ensemble des gens qui pensaient de la même manière, qui alimentaient leurs croyances les uns les autres, et on a vu l'émergence de figures comme ça, de stars de YouTube. Et alors, il faut effectivement dire un mot des algorithmes, puisque ces plateformes, elles ont une responsabilité, puisque ce ne sont pas juste des simples tuyaux par lesquels circulent des données. Celles auxquelles vous allez être exposés, elles sont influencées par les algorithmes de ces plateformes. Et on sait que ces algorithmes, notamment YouTube, donnent une prime au contenu sensationnaliste, donc aussi au contenu complotiste, dont le ressort principal est quand même de vous dire « on va vous dévoiler la vérité sur telle ou telle chose ». Donc ce sont des contenus, les contenus complotistes, qui sont évidemment très privilégiés par ces algorithmes.
Donc la solution face au complotisme ne se fera pas sans les GAFA, sans les plateformes comme Google, Facebook, Twitter, etc.
C'est probable, et probablement qu'il y a là un enjeu de régulation très fort au niveau des GAFA. Moi, on pense à Conspiracy Watch, parce qu'on a publié un certain nombre de recommandations sur le sujet, qu'il faut tordre le poignet hein, des GAFA, qui doivent, et qu'ils savent d'ailleurs qu'ils ont une responsabilité, y compris éditoriale. C'est tout le sens d'ailleurs de la suspension du compte de Donald Trump par Twitter. Il faut faire ce travail-là, d'un côté, sans doute à l'échelle européenne, qui est la bonne échelle, et ne pas oublier non plus la question des auteurs. Parce qu'il y a les plateformes qui rendent cela possible, mais il y a les auteurs qui ont une responsabilité morale et qui, aujourd'hui, dans les faits, échappent assez largement à toute forme de poursuite. Donc, ils sont dans une forme d'extraterritorialité judiciaire, juridique, qui fait qu'ils peuvent absolument dire n'importe quoi, porter des accusations très graves tous les jours, en étant suivis parfois par des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, sans jamais avoir à en rendre le moindre compte. Et ça, c'est une asymétrie, là, pour le coup, avec les médias classiques, professionnels, à laquelle il conviendrait de remédier.
Rudi Reifstadt, vous intervenez souvent dans les médias. Conspiracy Watch, jusqu'à il y a peu, avait un podcast qui s'appelait Les Déconspirateurs, que j'avais d'ailleurs recommandé dans l'atelier des médias en décembre dernier. Et je le disais en introduction, avec Tristan Mendes France, qui enseigne les cultures numériques au CELSA, et Marina Capitaine de France Info, vous produisez depuis peu un podcast intitulé Complorama, qui est disponible sur toutes les plateformes. Au moment où nous enregistrons l'atelier des médias, le deuxième numéro n'est pas encore en ligne. Il parle de quoi ?
Écoutez, on est en train de définir le menu, mais il parlera probablement de l'économie, du business, du complotisme. Et effectivement, c'est un podcast qu'on a lancé avec France Info après avoir commencé cette expérience maison avec les déconspirateurs, fait avec, là encore, très peu de moyens, puisqu'on l'enregistrait, on ne le montait pas et on le mettait quasiment brut hein, sur les plateformes. Et ça consistait en une discussion comme celle qu'on avait à Bâton Rompu avec Tristan régulièrement, puisqu'on travaille ensemble depuis des années. Donc on s'est dit à un moment peut-être qu'il conviendrait de faire partager ce qu'on se dit là au plus grand nombre, aux gens qui nous suivent, parce que on n'a pas le temps toujours de consigner, de faire des articles sur tout ça. Et c'est vrai que c'est une manière peut-être de toucher un autre public. Donc on avait lancé, je crois en octobre 2020, ce podcast, Les Déconspirateurs. Ça a duré une dizaine d'épisodes, et puis on a enchaîné à partir de janvier sur Complorama, qui est un podcast bimensuel, cette fois-ci, avec les moyens de France Info, donc avec la possibilité d'abord de discuter avec Marina Capitaine, et ensuite d'insérer notamment des archives, des sons, enfin voilà. Et sans doute de toucher là aussi un plus large public, peut-être moins familier de cette culture, de cet imaginaire complotiste. Quel public, si vous voulez, traditionnel de Conspiracy Watch qui nous suit depuis très longtemps et qui est rompu à toutes ces choses-là.
L'atelier des médias.
C'était Rudi Reichstadt, le directeur de conspiracywatch.info. Je rappelle son livre « L'opium des imbéciles » paru en 2019 chez Grasset et Complorama, le podcast disponible sur toutes les plateformes. C'est bientôt la fin de cette émission. Écoutons maintenant Mondoblog Audio qui donne la parole aux blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, le journaliste et blogueur congolais Didier Macal évoque les fake news, les rumeurs, les théories complotistes qui pullulent dans les groupes WhatsApp et sur les réseaux sociaux dans son pays, la République démocratique du Congo.
Ici, en République démocratique du Congo, les gens adorent les fake news. Je le constate tous les jours. Les fake news, les rumeurs, les manipulations, c'est un peu comme une tasse de thé ou de café bien tapée. On en prend quand on en a besoin et on recommence. Dans des groupes WhatsApp, une histoire vraiment loufoque peut toucher des centaines, peut-être même des milliers de personnes. Les gens se réunissent en masse pour jubiler à propos d'une rumeur. J'ai plusieurs fois surpris des proches en train de savourer des rumeurs. J'essaye de les en délivrer en vain. Je recoupe plusieurs sources pour les convaincre, rien n'y fait. Ils refusent la vérité, même preuve à l'appui. Dernièrement, un ami journaliste m'a conforté dans mon idée des fausses nouvelles qui font du bien à ceux qui les consomment. Ce fact-checker de première heure en RDC m'a surpris par son constat. Il m'a confirmé que souvent, lorsqu'il publie des articles qui déconstruisent des fausses nouvelles, on l'accuse lui-même de mentir. En République démocratique du Congo, les gens aiment les histoires pour les passions ou les émotions qu'elles charrient. Des histoires qui, en réalité, affolent là où je vis à Lubumbashi. La course aux passions et aux émotions atteint un seuil tellement puissant que l'on ne veut plus réfléchir ni à Lubumbashi, ni à Kinshasa, ni dans les autres villes. Mais derrière ces histoires parfois vraiment incroyables se cachent les vrais problèmes de la société. On veut des histoires pour curer des âmes déjà peinées par la pauvreté, les violences diverses et le chômage. Même dans les journaux télévisés, l'information n'est plus mise en perspective. Et on se convainc que demain, ça ira avec l'aide de Dieu, auquel on croit toujours chez les Congolais. Savez-vous pourquoi les gens agissent ainsi? Pourquoi ils y croient? Prenez patience, je reviendrai. Laissez-moi chercher encore.
Mondoblog.org.
C'était Didier Macal, journaliste et blogueur congolais que l'on retrouve sur son blog lubumbashiinfo.mondoblog.org. C'est la fin de cette émission, disponible à l'écoute sur toutes les plateformes et applications de podcast. Spotify, Deezer, Castbox, Podcast Addict ou encore Apple Podcast. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, donnez-nous 5 étoiles sur ces applications d'écoute. Cela nous permettra d'être visibles et donc encore plus écoutés. Écrivez-nous via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. Merci à Simon Decreuse qui a réalisé comme chaque semaine cette émission. C'était Camille Deloche qui a piloté Mondoblog Audio. La semaine prochaine, je vous emmènerai dans les locaux du site d'information français lesjours.fr qui fête ses 5 ans d'existence. Rendez-vous dans une semaine donc pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.